C'est la tentation de Moïse à Midian. Jusque-là, encore une fois, il n'y a eu aucune révélation à Moïse.
J'ai entendu la dernière fois, et qui était un enseignement, le premier d'ailleurs que nous donne la Torah, sur la vocation de Moïse. Et ça a mis en évidence la difficulté à laquelle on assiste pour la mise en train des événements qui mèneront à la sortie d'Égypte. Ce thème à différentes dimensions, nous aurons certainement l'occasion encore aujourd'hui de le retrouver. Simplement, je vous rappelle très brièvement la raison essentielle pour laquelle ces événements, qui doivent être les événements où s'accompliront les promesses de la fin de l'exil d'Égypte, et là, je vais vous référer au texte précédent, surtout dans les chapitres, dans le livre de Bereshit, où l'éventualité de l'exil avait été annoncée déjà aux Avot. Et une des raisons principales, c'est que l'annonce de l'exil qui va être celui de la famille de Jacob descendant rejoindre Joseph, et donc qui se passera en Égypte avec Joseph au commencement, devait durer 400 ans. Et l'accélération des événements fait qu'il a fallu anticiper la fin de la date de la fin de cet exil. Je vous rappelle très brièvement, pour deux raisons corollaires, que d'une part, la persécution se fait de plus en plus grave, et corollairement, le risque d'assimilation à l'identité égyptienne se fait aussi de plus en plus important, de plus en plus dangereux. Et nous avons déjà étudié une des fois précédentes le lien qu'il y a entre ces deux raisons. Chaque fois d'ailleurs que nous voyons qu'un événement annoncé par la prophétie doit se réaliser en anticipation, avant son temps prévu ou avant son temps normal, joue toujours deux raisons, une vis-à-vis de l'extérieur et une vis-à-vis de l'intérieur. Je veux dire, une des raisons concerne l'identité d'Israël à ce moment-là, et l'autre raison concerne la relation avec le monde extérieur. Donc c'est le cas pour le déclenchement des événements de la sortie d'Égypte. Alors nous allons admettre par postulat que tant les Hébreux que les Égyptiens, au moment où les événements vont commencer à se déclencher, les événements de la sortie d'Égypte, sont déjà au courant de cette tradition qui vient du temps des Avot, du temps des patriarches, mais vous vous rappelez, on n'emploie plus le mot de patriarche, qu'il y a 400 ans prévus pour ce que je vous ai appelé le contrat de travail en ce temps-là, entre Israël en gestation d'une part, et d'autre part la civilisation du temps. Et lorsque Moïse, par son diagnostic personnel des événements, décide de déclencher par lui-même et a priori de toute révélation qui le lui indiquerait, vous rappelez l'étude de la semaine dernière, ces événements, parce que son diagnostic lui a permis de comprendre à l'échelle humaine, par lui-même, que les deux raisons auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, le risque de dénaturation d'identité et le risque de disparition par la persécution, quand donc Moïse décide de déclencher ces événements, il va se heurter à un double obstacle. D'une part, de la part des Hébreux lui-même, et nous aurons souvent à refaire l'analyse des motivations de l'obstacle que le peuple d'Israël lui-même met à la fin de son propre exil. Dans le cas très brièvement d'ailleurs, faire un diagnostic contemporain. À la peine de revenir dans les détails sur ce thème, je crois qu'il est suffisamment évident. Le temps est arrivé et cependant tout se passe comme si il y a une résistance à se réaliser soi-même et en se réalisant soi-même à réaliser les promesses des prophètes. Donc d'une part une résistance de la part du peuple d'Israël lui-même et d'autre part une résistance de la part de l'Égypte elle-même. C'est-à-dire tout se passe comme si les deux sont au courant, disons globalement, d'une certaine tradition que bien sûr il y a un terme annoncé à ce à quoi finalement... Et c'est probablement ainsi que travaille la loi de l'inertie. On avait fini par s'habituer. Les Hébreux s'habituent à être en exil en Égypte, et l'Égypte s'habitue d'avoir en exil en son sein des Hébreux à son service. C'est bien clair. Donc, il y a un obstacle qui apparaît. Et c'est dans ce contexte que nous était renseignée la prise de conscience par Moïse de sa propre vocation. D'une part, de décrocher de l'identité égyptienne, d'autre part de tenter de rejoindre l'identité hébraïque. Il en est déçu, vous rappelez, je ne reviens pas dans les détails, mais si ce n'était pas suffisamment clair, je vais poser des questions à votre avis, l'analyse. Et il y a une grande parenthèse qui s'ouvre, il s'enfuit, il va s'installer à Midian. À la fin de cet épisode de Midian, se produit le dernier moment de la réidentification de Moïse par lui-même. Il se connaît comme n'étant pas rattaché à l'Égypte, mais n'étant pas non plus rattaché à quelque Tahrir, Herzat d'Israël aussi. Ici, l'exemple en étant Midian, il se réidentifie comme hébreu. Vous rappelez de cet enseignement particulier qui est plus qu'un détail, selon lequel, lorsque, au moment de la vision du buisson ardent, Dieu s'adresse à Moïse, et c'est la première fois que Moïse a une révélation, et il appelle Moshe, Moshe, le Midrash dit qu'il l'appelle d'abord en prenant la voix de son propre père. Comment s'appelle le père de Moïse? Amram. Nous verrons peut-être déjà aujourd'hui que ça joue un rôle important. Bien, installez-vous et qu'on commence. Donc, lorsque, à partir du moment où Moïse s'est identifié, alors est le texte que vous avez encore dans la paracha précédente de la révélation du buisson ardent, où Dieu confirme à Moïse que, premièrement, le diagnostic qu'il avait fait était celui qu'il fallait faire, et le confirme dans sa mission. Je vais me reprendre un verset de la paracha précédente, et ensuite je continuerai le déroulement des événements jusqu'à la fin de la paracha, et ce que nous allons étudier aujourd'hui au début de Vayera. Alors prenez au chapitre 3, verset... à partir du verset... à partir du verset 7. Chapitre 3, à partir du verset 7, donc on revient un peu en arrière dans la paracha de la semaine précédente. Et je pense que vous avez quand même par vous-même à l'esprit le déroulement des différents événements qui sont racontés dans les 5 premiers chapitres, donc dans la paracha de Shemot. Alors retenez bien ces versets parce que nous aurons à les utiliser dans l'étude plus particulière du début de la paracha de cette semaine que je vais commencer immédiatement. Tout le monde arrive à m'entendre suffisamment? Ça va? Vous entendez? Bien. Alors, le début de la... Prenez d'abord le verset 6, vous allez avoir l'expression du texte même qui s'appuie sur le midrash que je viens de vous citer. Qui appuie le midrash que je viens de vous citer. Vayomer anoch, Vayomer, c'est verset 6, Vayomer, c'est ça. Okay. Vayomer, et Dieu dit à Moïse, Anochi eloke avicha. Je suis le Dieu de ton père. Et ensuite, le verset dit, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a beaucoup d'études à étudier, si j'ose dire, dans la formulation, et c'est toujours le cas des versets eux-mêmes, pourquoi le mot de Elohim est ici au pluriel. Et il aurait pu suffire de dire, Amoti, El Abicha, El Abraham, Yitzhak, El Yitzhak, El Yaakov. C'est un autre sujet que je vous signale en passant. Et peut-être nous aurons à l'utiliser. Et alors, vous voyez donc l'identification de Dieu de ton père. Si d'abord on s'identifie par rapport à sa filiation propre, personnelle, alors la filiation par la nation, par le clan d'Israël est possible. D'abord Eloke Avicha, et ensuite Eloke Abraham, Eloke Israël, Eloke Yaakov. Pourquoi c'est important ici? Parce que précisément, ce qui est en question pour Moïse, sans être en question, mais tout en étant en question, c'est la décision de savoir comment il se affilierait à l'identité hébraïque d'origine ou à son identité d'adoption qui était l'identité égyptienne. Donc il y a un effort de d'épuration d'identité, et c'est au moment où cet effort a été suffisamment fait qu'il y a révélation d'évidence et que le récit peut commencer et que l'événement peut commencer. C'est bon fait. Pourquoi j'y ai insisté? C'est parce qu'on ne prête pas souvent garde à ce fait que l'initiative de la sortie d'Égypte a premièrement été prise par Moïse lui-même, en dehors de toute révélation. Nous avons étudié 3 ou 4 fois cette année ce thème, parce qu'il est important. Qui se souvient quand est-ce que nous avons rencontré la première fois ce thème-là? Le fait que l'initiative de la fin d'un exil vient d'abord de l'homme lui-même. À propos d'avoir. Oui. Non. Non. Là, c'est pour la sortie d'Égypte elle-même. Mais nous avions déjà un modèle. La sortie d'Abraham d'Urkazi. Vous vous rappelez de cela? Bon, pourquoi c'est important? Bien entendu, parce que nous revivons le même problème. C'est-à-dire qu'il y a toute une perplexité autour du temps contemporain, exactement de la manière dont ça s'est passé en Égypte, bon, formellement, exactement, c'est jamais exactement la même, c'est pire. De la manière dont ça s'est passé à la sortie d'Égypte, que le temps est arrivé, et cependant il y a une perplexité, parce que l'argument peut-être le plus insidieux, on n'a rien entendu d'en haut qui nous aurait dit que, d'abord c'est faux, ceux qui ont entendu, la preuve c'est que ça s'est passé, mais c'est d'abord l'étape de l'initiative prise par le peuple juif lui-même. Aujourd'hui nous étions dans l'exil du peuple juif. Et ensuite seulement la révélation vient, et la révélation vient simultanément au niveau des événements et au niveau de la prophétie. Au niveau des événements, celui qui voit, voit, fermez les yeux. Nous ne sommes pas à Paris, nous sommes à Jérusalem. Et alors ouvrez les yeux. Et puis, au niveau de la capacité prophétique, si j'ose dire, eh bien, c'est premièrement le fait que nous puissions lire ces textes avec le sens contemporain. C'est premièrement cela. Alors, je ferme la parenthèse. Toute cette révélation, vous l'avez à partir du verset 4, mais depuis le début. Et est au nom de Hachem. Nous allons prendre le verset 7. Vayomer, verset 7. Vayomer Hachem, et Hachem dit Rao, Raiti, Edroni, Ami, Asher, Bemikhaï. On est au tout début de la révélation du buisson ardent. J'ai vraiment vu, littéralement, Rao Raïti, j'ai vu, et Oni Ami, la misère de mon peuple, Asher Ben Israël, qui se trouve en Égypte. Nous n'avons pas eu le temps la semaine dernière d'aller jusque-là, et c'est déjà un des versets à travers lesquels nous comprenons que Dieu explique à Moïse sa propre erreur de diagnostic lorsque, dans la deuxième scène, il avait été déçu du spectacle de la société hébraïque exilée en Égypte. Vous vous rappelez de cela ? Alors, énormément de commentaires, et Rachid en résume quelques-uns dans son commentaire, en disant « Etroni, Asher ben Israël », la question est que cette expression est vraiment supplémentaire. C'est une information qu'on a déjà. Si Dieu s'adresse à Moïse pour parler de son peuple, nous savons que son peuple Israël est en Égypte. De mon peuple qui est en Égypte, quelle est l'implication ? Mon peuple est celui qui est en Égypte, pas comme tu as cru, Midian possible. Vous avez compris ? Entendez-le bien en hébreu. « Etroni, Asher ben Israël ». Au-delà de cette première information dans le sens important qu'elle a, et la misère, c'est le fait qu'il est en Égypte. Entendons-le en hébreu de nouveau. Etroni, Raïti Etroni, la misère, ami de mon peuple, Asher ben Israël, en ce qu'il est en Égypte. C'est clair le sens de Asher ici? Ne regardez pas d'un air étonné, parce que vous avez compris ça. Alors regardez-moi d'un air. Comprenant, je vais regarder. Regardez bien d'ailleurs, pour ceux qui sont déjà aptes à lire les ta'amim du verset, regardez les ta'amim qu'il y a sous Etroni Ami. Etroni Ami, disjonctif, Asher ben Israël. Si le texte voulait dire simplement la première information de mon peuple qui est en Égypte, les ta'amim seraient différents. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une unité de lecture, la misère de mon peuple, et une autre unité de lecture, Asher ben Israël, en ce qu'il est en Égypte. Bon, ce n'est pas l'étude d'aujourd'hui, c'était celle de la semaine dernière, mais l'année prochaine nous retrouverons peut-être. C'est sur cette expression qu'il faut se baser pour comprendre l'explication que Dieu donne à Moïse de l'état de dégradation dans lequel Moïse a trouvé sa propre société hébraïque, c'est en ce qu'elle était en Égypte. Est-ce que c'est bien clair ce que je dis là ? Tout le monde a compris. Bien, vous reverrez par vous-même Rachi sur ce verset, en particulier sur la fin du verset de ce verset 7. Ce que je veux noter comme élément de l'étude pour notre sujet de ce soir, c'est Vayomer Hachem, lorsque Dieu va se révéler à Moïse pour le confirmer dans sa mission et lui donner sa vocation et lui donner sa mission de retourner en Égypte pour délivrer Israël. Alors le terme qui est employé pour dire la médiation de révélation à ce moment-là, c'est le terme de Hachem, Vayomer Hachem. Ça veut dire que Dieu s'adresse à Moïse dans la modalité de révélation que nous avons l'habitude d'appeler la Midat HaRachamim. C'est clair ? Tout le monde est bien habitué à cela ? Je répète cependant la règle. Lorsque le texte emploie, rappelez-vous de cela, lorsque le texte emploie le mot de Hachem, Yutrivakre, ça veut dire que Dieu se révèle à travers la Midat HaRachamim, à travers la relation de miséricorde. Le mot français à la valeur qu'il a, mais enfin il correspond assez à ce que veut dire la Midat HaRachamim. Ça veut dire que le mérite n'entre pas en ligne de compte. Il y a là l'accomplissement miséricordieux d'une promesse qui se fait, qu'on le mérite ou pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas à craindre une mise en jugement pour savoir s'il y a suffisamment de mérite d'identité pour obtenir ce qui a été promis. C'est clair ? Sinon le texte aurait dit « Vayomer Elohim ». Et alors là, il faut s'attendre à ce que ça se passe à travers un jugement. Parce que le terme de Elohim, c'est la révélation de Dieu à travers la Midat Hadin, à travers la Midat qui demande des comptes. Est-ce que tu es celui à qui j'ai parlé lorsque j'ai dit « Je promets que ». Vous avez compris le problème ? De toute façon, nous sommes déjà habitués à cela. C'est une mise à l'épreuve de jugement qui est au-delà du niveau des comportements, des actes ponctuels, particuliers, quotidiens. C'est un jugement qui récapitule les comportements au niveau d'une évaluation de l'identité. La promesse a été faite à un certain Israël. Si tu es cet Israël authentiquement par rapport à une certaine norme d'évaluation à qui j'ai parlé pendant la promesse, elle se réalise pour toi. Si tu ne l'es pas encore, alors il faut que des événements mettent à l'épreuve, de telle sorte que cela soit acquis. Vous voyez ici une parenthèse, mais vous comprenez bien cela ? Alors c'est important, c'est la Midat HaRachamim qui a révélé cela à Moïse. Retenez cette première donnée. Je vous ouvre une parenthèse, peut-être que vous allez prendre l'exemple de la Akedat Yitzhak comme modèle. C'est-à-dire, admettons qu'il n'y a pas encore de qu'il faille que ce soit à travers le jugement de Moïse. Et puis, rappelez-moi d'expliquer pourquoi il y a deux interventions possibles dans l'accomplissement des promesses, soit à travers la Midat HaRachamim, soit à travers la Midat HaDin. Je vais dire tout de suite, il ne faut pas l'oublier. C'est un grand enseignement de la Gemara et repris dans le Midrash. Est-ce que la délivrance se fait à Pessah, à Nissan ou à Tishri? Lorsque la délivrance se fait à Nissan, c'est par la Midat HaRachamim. C'est-à-dire sans la clause de mise en évidence par le jugement et les épreuves corollaires, est-ce qu'il y a mérite ou pas? Lorsque c'est à Nissan, c'est qu'il y ait mérite ou pas. Okay. Vous suivez ça? Si ça se fait à Tishri, c'est à travers l'épreuve du mérite. Vous avez compris le pourquoi cette discussion dans la Gemara, qui double d'ailleurs une discussion beaucoup plus profonde encore, est-ce que le monde a été créé en Tishri ou en Nissan? Comment on peut poser une question pareille, puisque la Torah dit que c'est en Tishri? Ça, c'est la sortie des livres. Chodesh Lachem et Yelachem, Rosh Chodesh. Ça c'est, ça c'est à la sortie des îles. Mais est-ce que le monde a été créé en Tishri ou en Nissan? Et nous savons qu'il est créé en Tishri. Comment nous savons qu'il est créé? Pardon?
C'est le projet de création.
Non, la création du monde est en Tishri. D'après, vous avez raison, pour le projet, mais c'est en Nissan. Le projet est en Nissan. Vous voyez, c'est une question de Talmud Torah innocente. Hein? Comment nous savons que le monde est... Ça, je dirais a posteriori. Puisque, vous comprenez, il ne faut pas faire le raisonnement à l'envers. Okay? Et on apprend par là que lorsqu'on emploie Elohim, c'est la Midat HaDin, parce que le monde a été créé par la Midat HaDin. Alors, parle plus fort. Non, hein? Attends, j'ai pas entendu ce que tu dis, ben j'ai l'impression que tu dis quelque chose d'énorme, alors répète. Tu veux dire le premier chapitre? Comment dit le... Là tu lis un midrash, je suppose, et encore, mais comment dit le verset? Bereshit bara, alors il a fait... C'est vrai? Et ensuite, mais... au début du chapitre 2, au verset 4, Beyom, elle est l'autre chemin et Beibaream, Beyom, Asot, Hashem Elohim, et Hashem Elohim, le Midrash se demande pourquoi au verset 4 du chapitre 2 il y a Hashem Elohim, alors qu'au premier verset du premier chapitre il y avait Elohim, et là le Midrash dit ce que tu as cité en partie, okay? Mais ça ne répond pas du tout à la question. C'est bien attention à ça. J'ai entendu une fois un cours qui parlait de Myriam, la sœur de Moïse. Je vais vous expliquer pourquoi je donne ça comme exemple. Et vous rappelez que lorsque la Torah parle de Myriam, la sœur de Moïse, elle dit Myriam Anevia. Le texte dit Myriam Anevia, Myriam la prophétesse. Ce professeur était très gêné, je suppose. Il faut faire une psychanalyse des implications. Okay? à l'idée qu'il puisse enseigner à ses élèves qu'une femme peut être prophète. Alors il nous a fait un cours d'une heure pour nous expliquer que non, elle n'était pas prophète. Mais ça voulait dire qu'elle était allée à l'école, Betul Pena, ou femme, tout ce que vous voulez. Jusqu'à ce qu'un petit juif tranquille qui avait dû dormir toute l'heure, il avait dit, mais il a écrit qu'elle est prophète. Vous avez compris le problème. Alors ça devait faire attention. Tu ne peux pas raisonner, étant donné ce qu'il y a d'écrit. Mais t'as compris ce que je veux dire. Et rappelez-vous cela, le grand principe du Talmud, c'est En Mikra Yotze Mide Pshuto. Je vais vous mettre ça au tableau, ça va la fin de la France aujourd'hui. Vous arrivez à voir, bien que la craie ne soit pas si blanche, En Mikra Yotze Mide Pshuto. Le contexte est Arvarnu al kol hashas ve'en mikra yotze mideh. Nous avons passé à travers toute la Mishnah, les six chapitres de la Mishnah, chasse, rien à voir avec chasse ve'chalot, et puis ve'lo masanu she'mikra yotze ou masanu she'en mikra yotze mideh. Alors, le sens de la phrase est important. Jamais le texte ne sort de son sens chasse. Et mikra yotze mideh. C'est clair. Et on n'a pas dit ça pour le pshat. Bien sûr que le pshat ne sort pas du pshat. On a dit ça pour tous les midrashim. C'est-à-dire, dans tous les midrashim que nous avons appris, jamais le verset n'est sorti de son pshat. C'est-à-dire, le midrash vient pour nous expliquer le pshat. Vous avez compris le pshat. Par conséquent, ce qu'il ne fait pas d'abord, c'est commencer l'écrit. Mais, alors, j'ai l'intention. Le midrash sur lequel je te cite traite d'un autre problème. Pourquoi le verset 4 du chapitre 2 dit d'ailleurs, Rasot Hashem Elohim, en ajoutant le mot de Hashem avant Elohim, là le Midrash dit d'abord la vie du créé par la Midrash, s'il vous plaît. Et en fait, c'est pas notre question. Notre question c'est, il y a dans la Gemara une discussion, est-ce que le monde est créé en Tishri ou en Nissan? Mais comment c'est écrit en Tishri? C'est là que j'ai demandé par hasard, et d'où en fait que c'est écrit que. Il n'y a pas de réponse. Mais ça c'est une Tzmoura. Je vais vous expliquer ça. C'est Rabbeinu Bechaye qui l'a enseigné. Vous avez entendu parler que c'est Rabbeinu Bechaye. Ne confondez pas en tout cas avec Bachaye et Papida, on le confond souvent. On appelle Rabbeinu Bechaye Asfaradi. Vous ne connaissez pas Rabbeinu Bechaye? On l'appelle aussi Rabbeinu Bechaye Anassi. Alors un jour, je ferai un cours de paracha avec le commentaire de Rabbeinu Bechaye. C'est un des grands de l'école espagnole. Et je reviens au. Le problème, il s'appelle Rabbeinu Bechaye Bar Asher. Et un des grands disciples de Maïmonide, en fait, la suite de Maïmonide, ça aurait pu être de Mahmoud. Alors, qui cite cela, Ken, que vous savez que le procès de lecture qu'on appelle la Temura, permutation des lettres. Que si vous prenez le mot de Bereshit, il est formé des mêmes lettres que le mot de Aleph Betishri, le premier de Tishri. Mais ça, c'est une allusion, un remède. Ken. Alors quelle est la. D'où nous vient la connue? C'est joli. C'est d'autant plus joli que Tishri, c'est pas un mot hébreu. C'est araméen. Ayom haratolam. Ah, c'est pour ça que vous avez dit le monde a été conquis. Très bien. Bon, eh bien écoutez, je vais vous demander de chercher la réponse et puis on verra la semaine prochaine. Il faut bien que vous travailliez une fois. Alors, on revient à cette idée. C'est que cette discussion au sujet de la Géoula, c'est est-ce que la Géoula se passe à Tishri ou à Pessah? Et finalement, la tradition du Talmud a enseigné, de même que nos ancêtres ont été délivrés à Pessah, de même, la Géoula future qui nous concerne, sera à Pessah. L'important, c'est que lorsque la Géoula est à Pessah, c'est par grâce, par rachamé. Okay? Ça veut dire qu'on ne fait pas passer en jugement. Si elle passe à Tishri, c'est qu'on fait passer en jugement. Alors, si vous étudiez le calendrier des événements contemporains de la Géoula, vous verrez que tous les événements que nous commémorons dans l'époque de Pessah sont des événements faciles, alors que les événements qui sont commémorés dans l'époque de Tishri sont des événements difficiles. Vous vous rappelez de cela? Bon. Alors, comme nous sommes... À l'époque de Pessah, espérons que les événements de Géoula s'accéléreront dans ce temps-là, plutôt maintenant qu'à Tishri. Alors, je reviens. Donc, rappelez-moi pourquoi nous avons parlé de cela. Oui, c'est que... Vayomer Hashem, Rao Raïti et Roni Ami Asher Ben Israim, et Tahakatam Shamarti, Mipenen Ogesa. Juste après, ça continue, les premiers versets de la promesse. En tout cas, encore, dans cette révélation qui a pour titre Hashem, prenez le verset 10. Vous allez aussi noter cela. Vous voyez, et le verset 10, j'allais noter cette expression, on va en avoir besoin immédiatement. Verata, et maintenant, c'est-à-dire Dieu commence par dire dans tous les versets qui vont de 7 à 10 que le temps est venu de l'accomplissement de la promesse. On croit comment c'est relié directement. Vayomer Hashem, okay, le temps de l'accomplissement de la promesse est accompli. Ça veut dire que Dieu accepte ce diagnostic, accepte, légitime ce diagnostic, qu'effectivement, bien qu'il s'agissait de 400 ans a priori, il faut accélérer les événements de la fin. Et donc, c'est comme si nous étions vraiment au terme du temps prévu par la loi des temps. Et donc, c'est parce que le moment est arrivé que cela doit se réaliser. Il n'est pas nécessaire de faire appel à une clause supplémentaire d'un mérite pour mériter les événements. C'est clair ce que je veux dire? Et c'est là qu'au verset 10, il dit « Verata, et maintenant, lecha, va, veeshlachacha el paro, et je t'enverrai vers le pharaon. Veotze et ami bene Israël, minitraï. » Voilà le dernier verset de cette première révélation. Je reviens sur l'expression. Veata, et maintenant, lecha, veeshlachacha el paro, va, et je t'enverrai. J'avais une fois enseigné, je le rappelle, c'est important, que c'est le principe d'une mission. Normalement, on s'attendrait à l'inverse. Je t'envoie, va. Mais là, il y a « va, je t'enverrai ». Ça veut dire « si tu vas par toi-même, je t'envoie ». C'est comme ça qu'on choisit les spécifiques. Ils s'en vont déjà, alors on les envoie. Alors, « lecha ve eshlacha ». Nous trouvons une expression inverse à la fin de l'exil de Jacob. Lorsque Jacob va prendre congé de Laban, il dit « shalecheni ve elecha ». Vous trouverez le verset par vous-même, si vous voulez, je peux vous donner la... La référence, non, c'est dans Bréchit, mais pas lui. Shalecheni ve'elecha. Le premier sens qu'a exploité le Midrash renvoie à un thème très important que nous aurons à reprendre au temps de la sortie d'Égypte, que je vais mettre en évidence. Lorsque nous étudierons tout le problème des plaies de la sortie d'Égypte, nous verrons que un des objectifs principaux des plaies de ce temps-là, en Égypte, c'était d'obtenir l'acquiescement du pharaon. Les Hébreux auraient pu partir dans un temps de catastrophe qui aurait frappé de stupeur les Égyptiens et ils s'en seraient enfuis, pas besoin d'attendre que le pharaon dise oui, c'est un pour lui-même. Comment se fait-il qu'il faille obtenir la permission du pharaon pour pouvoir partir? Vous vous rappelez de ce thème-là? Bon, très, très brièvement, s'il y a contrat de travail entre Israël et les nations, et le visage des nations de ce temps-là, c'est l'Égypte, souveraine en ce temps-là, alors... S'il est nécessaire de rompre ce contrat de travail avant le temps parce que les clauses du contrat ne sont pas respectées, alors quand même il faut qu'il y ait acquiescement de la part. Pour rattacher ça au principe très important que nous voyons souvent. Tous ces enseignements ont l'air difficiles à entendre tant qu'on se situe en dehors de monothéisme intégral. Il faut de nouveau se resituer au sein de monothéisme intégral absolu pour comprendre cela. Cette histoire, c'est l'histoire de l'universel humain qui est la création du Dieu unique. Il y a le côté Israël, il y a le côté Égypte. C'est clair? Alors Israël ne peut décrocher de ce contrat de travail que s'il y a l'accord à travers de Dieu, pas seulement à travers Israël, ça il faut que la promesse s'accomplisse, mais de Dieu à travers Dieu de Dieu. Et si je dis Dieu de l'Égypte, vous comprenez où j'explique? Dieu à travers c'est pas les dieux de l'Égypte. C'est clair, hein? Et alors, il faut prendre congé. Alors les premiers midrashim à propos de Jacob prenant congé de chez Laban, dit Shalecheni, donne-moi la permission de partir, sinon je ne peux pas partir. C'est clair juste là? Bon. Après cette lecture, nous avons ce diagnostic que nous sommes obligés malheureusement de faire. C'est chaque fois qu'il y a une fin d'exil, il faut qu'on nous renvoie pour que nous partions. C'est-à-dire Shalecheni, renvoie-moi, alors je partirai. Vous avez compris ce que je veux dire? pour la première lecture, c'est clair, à la sortie d'Égypte, il a fallu le feu vert, si j'ose dire, du pharaon pour qu'elle se passe. Jusque-là, Dieu demande à Moïse de patienter. On va voir ça tout à l'heure. Hein. Et Moïse ne comprend pas pourquoi c'est si difficile, alors que c'est la Midat HaRachamim qui lui a promis et sort. Les versets qu'on vient de lire. Hachem lui a dit, Veotse et Bene Israël, Bene Israël. Alors Moïse peut s'attendre à ce que ça va être facile, c'est la Midat HaRachamim. Vous suivez ? Il va se heurter à énormément de difficultés. Alors en cours de l'histoire de ces difficultés, les premières péripéties nous étant racontées dans la première paracha de Shemot, on va arriver à la fin de Shemot, où Moïse va poser la question, pourquoi c'est si difficile ? C'est clair que là, vous avez bien cette donnée. J'étais donc sur ce point de le... de Shelachani, Vélecha, de Jacob pour la sortie d'Égypte. Et ça s'est passé d'abord pour Jacob quittant Laban. Il faut que Laban lui donne congé. Et vous rappelez à quel point c'était très difficile à Laban de donner congé à Jacob. Parce que si Jacob s'en va, il emmène Rachel, Léa, Zilpa, Bilha et les troupeaux. Okay. C'est-à-dire le pays de Laban, vidé par Jacob. Et chaque fois que Israël a quitté une civilisation, elle a fini par disparaître. Vous remarquez ça ? Parce qu'il arrivera du pays de Laban maintenant que Jacob a décidé de revenir chez lui. Il risque d'arriver des choses pas jolies, mais enfin, c'est le problème des Libanais. Je reviens à notre question. Le modèle Jacob Laban, il faut prendre congé. Bon, la sortie d'Égypte, il a fallu avoir le feu vert de Pharaon, c'est là où je suis. Okay. Ensuite, le deuxième exil, l'exil de Babel, il a fallu avoir le feu vert de la puissance politique du temps qui était Cyrus. Très bien. Et de notre temps, c'est très clair, ça s'est déclenché qu'après la déclaration Balfour. Bon, nous pouvons revoir ça en détail une autre fois. C'est-à-dire, chaque fois, cette clause a joué. C'est bien clair. Bon, mais je tenais à rappeler ça. Lecha veishlachacha. Va et je t'enverrai. Donc, ils sont avertis que Dieu ne va pas imposer à Moïse cette mission. Il ne la lui imposera que si Moïse est prêt à y aller. Et voilà, surprise, qu'au verset 11, alors que c'est Hachem qui s'adresse à Moïse, le terme change. Vayomer Moshe et la Elohim. Et Moïse dit à Dieu, Midata Elohim, Midata Di. Mianofi qui est fait par Oves. Alors nous allons retenir, c'est un midrash note, et je vous lirai le midrash tout à l'heure, qu'il y a chez Moïse encore ce souci, cette inquiétude, que ça risque de se passer à travers la Midat HaDin. Il entend la Midat HaRachamim lui parler, mais il s'adresse pour répondre à la Midat HaDin. Vous comprenez ? Retenez bien cette donnée, ça va nous expliquer ce qui se passe. Et précédemment, je voudrais, avant d'arriver au dernier verset de la Sidra, de la Parasha de Shemot, qui justement met en évidence ce moment d'impatience, si j'ose dire, de Moïse, ou de perplexité, il ne comprend pas une promesse.